d'avoir un petit peu dépassé le temps, voilà. Voilà. En tout cas, merci pour cette perspective. C'est vrai que de la part de notre directeur, repositionner et vous rappeler bien le cadre qui nous est au fond imposé, mais que nous imposons évidemment. La chaise a simplement repris ces propositions des professionnels et des acteurs du soin. Dans le cadre des hôpitaux, la réflexion a été la mise en place et avancée plus ou moins en fonction des différents hôpitaux de comités d'éthique. Je vais laisser la place à Véronique Bruno Danel, qui va neurologue, qui participe à l'espace éthique et qui va nous parler au fond du comité d'éthique, de sa place.
Merci beaucoup donc de me permettre d'être présente parmi vous aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Véronique Danel-Cuno, je suis avec d'autres et nombreuses personnes en train de mettre en place l'espace éthique hospitalier universitaire de Lille. C'est également en tant que neurologue que je m'exprime aussi aujourd'hui, je partage avec vous cette préoccupation, et je crois qu'elle est très vive dans l'esprit des neurologues, cette préoccupation pour le comportement, l'humeur, la qualité de vie et les réflexions que j'ai entendues aujourd'hui de toutes ces personnes qui m'ont précédé augurent bien d'un possible travail collectif de qualité sur ces problèmes de, en particulier en psychiatrie, vous avez dit, de santé mentale, c'est-à-dire de réfléchir quels sont les services que l'on peut rendre à une personne en situation de handicap et en particulier de handicap du rapport à l'autre, d'où la dimension sociale et évidemment la dimension familiale. Alors, de ces réflexions, j'ai pris note et j'ai entendu des mots très importants d'accompagnement, de responsabilité collective sous-tendant la notion de solidarité et d'évolution sociétale vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap. J'ai également entendu la notion de personne entourée, c'est-à-dire une notion très intéressante qui élargit la personne malade, sa singularité, à ceux qui lui sont très proches. Et de ces, si en santé mentale, je pense que cet élargissement de la personne doit être très réfléchi, très pensé. Et bien évidemment, c'est ressenti au travers de difficultés dans la relation aux professionnels de soins, tout à fait légitime. Et au moins, cette difficulté dans la relation permet-elle d'interroger l'éthique. Et je pense qu'on parle en effet tout très très justement d'une la ressentie difficile, voire de douleur, et forcément d'une inquiétude qui amène à cette interrogation éthique, comment servir au mieux les personnes en situation de ce handicap particulier tel que vous croisez en santé mentale et que nous croisons également en neurologie, comment les servir au mieux, et je ne voudrais certainement pas reprendre à mon compte de telles paroles illustres, mais avec et pour autrui et dans des institutions justes, et je pense, monsieur le directeur, que vous avez tout à fait mis l'accent sur cette nécessité de ouvrir guillemets justice. Alors, comment sortir de cette difficulté? Je pense qu'on a entendu trois niveaux de réflexion. Le premier niveau est très intéressant, je trouve, parce qu'il va nous permettre de mettre à profit cette richesse qui est votre espace de réflexion en santé mentale, puisqu'elle associe des professionnels et des associations de famille et les représentants de société civile. Le premier niveau, c'est comment vivre, il me semble, la parentalité de la relation médecin-malade, la relation au malade. À la maladie mentale. Je pense que quand on vit cette irruption de la maladie mentale, vous l'avez bien sûr dit beaucoup mieux que moi, dans une famille, il y a évidemment la question qui se pose, comment vivre le proche que reste le proche, le parent, face à un malade souffrant d'une maladie mentale. Le deuxième niveau, tel que vous l'avez dit, c'est comment imaginer ce partenariat obligatoire entre les professionnels du soin, les équipes soignantes et les proches au service de ce malade. Je pense que l'implication des proches est maintenant quelque chose de tout à fait nécessaire dans la médecine. On le voit dans toutes les situations de maladies chroniques, du diabète jusqu'à maladie d'Alzheimer, en passant par maladie Parkinson, l'épilepsie, etc., etc. Il est évident qu'il faut fonder ce partenariat entre les proches qui ont une connaissance du malade et les équipes soignantes qui ont également une connaissance du patient. Et donc forcément, cela nous amène à des choses très profondes en éthique, qui est le troisième niveau, c'est celui que vous avez tout à fait bien exprimé, de relation, l'être avec, le prendre soin. Je pense que nous avons également ici des richesses en matière de réflexion philosophique sur cette notion d'être avec, de prendre soin, d'accompagner,
je pense qu'on est nombreux à croire en la relation à la valeur thérapeutique de la relation soignant-soigné comme traitement d'une relation devenue malade du fait d'une maladie particulière, santé mentale ou neurologique. Et cette relation soignant-soigné, où forcément est inclus le tiers que représente la famille, c'est cette relation soignant-soigné qui peut être thérapeutique pour le malade. Alors là, on va se dire, oui, ben zut alors, on est dans les institutions et en ce moment, je suis désolée, mais on est un peu bercé ça, maintenant on parle d'actes. Alors j'ai pour reprendre le terme d'un de mes collègues, T2A, tarification par l'activité, acte. Moi ça m'évoque quoi? Ça m'évoque discontinuité. Alors qu'en fait, ce qu'on essaie de promouvoir ici tous ensemble, c'est une certaine continuité dans la prise en charge, qui sort de l'hôpital pour aller dans le domicile, auprès des familles, avec les familles, puis qui ressort éventuellement, qui va parfois vers l'autonomisation d'un malade en situation de handicap du fait de sa maladie mentale, mais qui est toujours fondée sur une certaine continuité. Et donc je crois un gros travail qu'on aurait peut-être à essayer de construire ensemble, c'est comment promouvoir cette continuité de l'accompagnement, cet être avec, au travers de nos contraintes d'organisation familiale, de vivre avec un proche de maladie mentale et de prise en charge en institution. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose en effet qui pourrait nous réchauffer notre inquiétude éthique. Et je voudrais terminer sur une petite question, c'est vrai que le mot inadéquat est très particulier. D'où vient-il? D'où vient ce mot inadéquat? Je l'ai entendu aussi aujourd'hui. Je l'ai entendu aussi aujourd'hui en neurologie. Je pense qu'on l'entend aussi dans les pathologies chroniques en situation de handicap. Je crois qu'il renvoie beaucoup plus à notre dimension de solidarité que peut-être à notre professionnalisme au service des malades.